attitude, attitude, émission de Jean Dufour, mise en onde par Lucas Lulac. Bonjour, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, Hélène Gers. Hélène Gers, bonjour. Fileuse de conte. Ça ira, fileuse de conte?
Oui, c'est parfait, fileuse de conte. C'est un beau résumé. Et bonjour, Jean. Donc, je suis très heureuse d'être ici.
Merci à vous. Et puis, nous allons donc filer le conte avec vous.
Oui, c'est ça.
On va filer le conte. Donc, vous êtes née à Alès.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est la Cévennes.
C'est la capitale des Cévennes, effectivement. Donc, je suis née dans le plus grand temple protestant. Et donc j'ai hérité de cette tradition de conteur, et c'était surtout une tradition de conteuse, ce qui était aussi des fileuses de soie. C'est pour ça que fileuse de conte, ça me va bien.
Alors fileuse de conte, fileuse de soie, on va reparler bien entendu. On va dire au départ, pour que ce soit bien compris par nos auditeurs, que vous êtes la fille de Jean Gers.
Oui, alors j'ai beaucoup de joie de partager cette tradition que m'a transmise Jean Gers, mon père. Et lui s'est immiscé donc dans une tradition, une filiale matriarcale, puisque c'était ma grand-mère qui était conteuse. Et elle le tenait de sa grand-mère. Et c'était donc mon arrière-arrière-grand-mère qui habitait à Meyerweis. Et dans ce petit village, elle descendait chaque année plus de 30 km à pied. Elle avait fait des petits pots de confiture d'églantine qui étaient, paraît-il, délicieuses. Elle les mettait dans un panier qu'elle avait elle-même tressé. Et ainsi, le soir, elle réunissait ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, les voisins autour de la cheminée et elle leur contait des histoires. Nous étions au bord de la rivière dans un village magnifique qui s'appelle Valrogue.
Valrogue. Valrogue qui aura marqué aussi votre père.
Qui a beaucoup marqué mon père, il s'est beaucoup inspiré de tous les gens qui vivaient là-bas. Maintenant, ça s'appelle Val d'Aigual, donc ça n'existe plus. Mais il y avait toute une vie qui était autour de la soie, autour de l'agriculture des Cévenols, qui étaient souvent des gens qui vivaient en autarcie.
Alors, les mamettes, elles ont marqué votre enfance ou c'est simplement de la transmission orale comme ça, un peu artificielle?
Pas du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un peu ma grand-mère qui m'a élevée. Donc Alice, la mère de Jean, de mon père. Et elle était née dans une, elle était bergère, elle a été fileuse. Elle était née dans une ferme perdue dans la montagne. Et elle connaissait très bien les plantes. Donc c'était une vraie personne de la terre qui avait une grande sagesse de la terre. Et ma grand-mère a été très importante pour moi. Et c'est elle qui m'a transmise aussi l'amour des contes. Avec mon père.
Le goût du conte.
Le goût du conte.
Le goût, on va dire le goût. Ça me paraît important. Alors, Hélène Gers, donc, ben, c'est son occitanitude, vous l'aurez compris. Et nous allons donc passer une heure en sa compagnie.
Oui, avec plaisir.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté, moi j'ai trouvé l'amour d'une reine, et moi je l'ai gardé.
Georges Brassens, les sabots d'Hélène, ça vous va comme un gant?
C'est
ça me va comme un sabot.
Ça me va comme un sabot qui a ma taille. Et puis Brassens, c'est un immense poète qui s'est inspiré beaucoup de la nature. Et il apporte, dans tout ce qu'il dit, ça roule, quoi. C'est vivant.
Alors, est-ce que quand il a écrit cette chanson, il pensait à vous?
Un jour on va, parce que quand j'étais petite, j'étais traumatisée par cette chanson, parce que j'avais écouté que le refrain. Mais quand j'entends la chanson en entier, elle est tellement belle.
Ça vous va?
Oui, très bien.
Bon, moi je pensais qu'il l'avait écrit pour vous.
J'espère.
Bon, il faudra demander à Brassens si l'occasion se présente. Alors, Hélène Gers, vous avez commencé votre carrière par le dessin animé, on va dire.
Oui.
Alors, pourquoi? Comment?
Alors en fait, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'allant et j'aimais beaucoup le dessin. Donc j'ai eu la chance d'intégrer la fabrique et de travailler dans le dessin animé, dans une équipe qui était faite de dessinateurs émérités. Hein. Et puis de fil en aiguille, hein, pour une fileuse, ça c'est pas mal, je suis allée jusqu'à Paris. Et là, j'ai vu que c'était en train d'en faire quand même, le dessin animé, qu'on faisait de la surproduction et que c'était plus du tout mon rêve que j'étais en train de vivre. Et j'ai décidé de tout arrêter parce que j'aimais les histoires, mais toutes ces images qui étaient déjà prêtes, il n'y avait plus rien à imaginer finalement. Tout était fait, hein, même si c'est très beau. Et puis, c'était un rythme d'enfer. Donc, j'ai quitté la galère pour me mettre dans quelque chose de plus proche de moi et retrouver la tradition familiale.
Tradition familiale, qui est le conte.
Qui est le conte, voilà. Tout simplement le conte. Et mon père, donc, qui est ce conteur merveilleux, qui a vraiment le sens de cette tradition orale avec la spécificité du conte, avec ce monde imaginaire. Donc moi, je me suis servie du dessin animé pour devenir une cinéaste de l'imaginaire et de pouvoir transmettre toutes ces belles images que j'avais en moi à travers les contes, par mes mots, et les transmettre d'image à image. Maintenant, on parle ça le langage animal, mais c'est aussi le langage humain.
Alors, il faut dire que la fabrique était implantée en Cévennes.
Oui, à Saint-Laurent-le-Minier.
En Saint-Laurent-le-Minier. Donc, c'était quand même peut-être l'acte fondateur pour vous de faire quelque chose en Cévennes.
Alors, c'était très fermé hein, comme milieu, c'est-à-dire qu'il prenait beaucoup de gens qui venaient de Paris et d'ailleurs. Donc, je suis passée par Montpellier au départ. Et je me souviens, quand je travaillais dans l'équipe, on me disait « Ah, mais toi, tu es d'ici !» J'étais comme un élément absolument extraordinaire, parce que j'étais du coin, quoi. J'étais une indigène.
Vous étiez suspecte.
Oui.
Carrément.
Oui,
carrément. Alors, dites-nous tout. Vous êtes partie à Paris, et puis, bon, vous avez passé la BD par pertes et profits.
Alors, je suis allée à Paris, j'étais au CFT Gobelin, je me suis formée en storyboard, je suis allée à Montréal. J'ai eu la grande chance de pouvoir interviewer Frédéric Bach sur L'homme qui plantait des arbres. Ça a été le cadeau de ma vie. Et les grands réalisateurs de l'ONF au Québec. Et ensuite, j'ai travaillé chez Rooster Productions, c'est ceux qui travaillaient avec Harakiri. Et là, j'ai senti qu'il était temps que j'arrête, que je quitte cette galère pour aller vers quelque chose de plus poétique quand même.
Alors, parlez-moi de L'homme qui plantait des arbres, parce que c'est quelque chose qui nous est cher ici.
Ah oui. Donc, L'homme qui plantait des arbres, donc déjà, c'est un magnifique texte de Giono. Et Frédéric Bach était un homme extrêmement méticuleux, travailleur, bienveillant. Il n'avait plus qu'un œil parce qu'en fixant ses dessins, il s'était mis du produit dans l'œil, il avait perdu. Mais il avait une vision très large puisqu'il était attentif à tout ce qui l'entourait. Et c'était un homme extrêmement généreux et c'était l'homme qui plantait des arbres.
Alors, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec la version Philippe Noiret?
Alors, c'est Philippe Noiret qui a fait la voix du dessin animé. Mais avant tout, lui, moi, je l'ai vu travailler. Hein, c'était absolument fabuleux de voir cet homme travailler sur ce dessin animé qui a duré des années hein, de réalisation, parce qu'il était tout seul. Hein. Et il était complètement... je pense qu'il était complètement immergé dans ce magnifique texte de Giono. Il en a sorti une merveille, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que cette merveille devrait aujourd'hui être reprise et non pas corrigée par tout le monde sur le plan de l'écologie?
Bien sûr.
C'est le texte fondamental.
C'est extraordinaire de voir cet homme qui traverse toutes les guerres. C'est pour ça que j'avais choisi aussi de traverser toutes les guerres et qui arrive à planter des arbres de façon tellement discrète et humble qu'il recrée la vie tout autour de lui. C'est un message extraordinaire. J'ai vu le film 17 fois quand même.
17 fois.
Oui.
Bon, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois. pour me battre. Il va falloir que je vous rattrape, Hélène. Donc voilà, donc on est complètement dans le monde imaginaire d'Hélène, Hélène Gertz, et on est dans son Occitanitude, voilà, qui est marquant à jamais, et ça nous permet de faire notre deuxième pause musicale.
Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce plantain, ce minus.
La corrida, Cabrel, la corrida, ça vous marque pas tellement. J'ai l'impression que c'est un peu décalé, là. Cette corrida, elle arrive bizarrement.
En fait, je trouve que cette chanson est très actuelle parce que ce taureau, c'est la nature, c'est tout ce qui est sensible, c'est tout ce qui est subtil. Et nous, les conteurs, on est là pour rendre visible le monde invisible, pour donner la parole à tout ce qui vit et qui n'a pas de parole. Et la nature en a bien besoin. Et bon, évidemment, moi, la corrida, c'est quelque chose que je trouve épouvantable, hein, de mon point de vue. Et c'est un vrai chef-d'œuvre, cette chanson. C'est nous tous, c'est notre âme, notre innocence qui est dans cette arène.
Alors, vous qui êtes contre la corrida, au service d'une chanson qui s'appelle La Corrida de Cabrel, pour mettre en exergue l'imaginaire de vos contes.
Oui, puisque donc ça représente bien Cabrel, c'est comme Brassens, ce sont des gens qui viennent d'Occitanie et qui ont une relation particulière avec la terre. Et ils représentent pour moi toute cette poésie qui va dénoncer avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité des choses qui sont tellement essentielles.
Est-ce que vous avez fait un conte sur le taureau, sur la corrida?
Ah, j'ai fait des contes, oui, sur la Camargue.
La Camargue.
Oui, j'avais fait une résidence d'auteur près de Vauvert, là, et j'avais fait un spectacle sur la Camargue, oui.
Vous parliez de corrida?
Non, c'était du taureau, plutôt, oui. Puis c'est la puissance, le taureau, c'est la mythologie, c'est tellement de choses.
Donc, va pour le taureau.
Va pour le taureau.
Va pour le taureau. Hélène Gertz, fan de taureau.
Oui, si on veut.
Moi, j'aime bien aller chercher les contradictions des gens, et c'est bien, c'est une contradiction. Une première, hein, on verrait que nous allons en trouver d'autres avec Hélène. Mais c'est bien. Donc, on est dans la balade de la fileuse des contes.
Oui.
C'est une grande balade. Et nous avons donc la partie dessin animé que nous allons terminer. Oui. Pour passer à la deuxième partie, qui est la partie clown.
Ah oui. Donc, quand je travaillais dans le dessin animé, j'étais une mordue de travail. Hein. Donc, c'était une génération où on travaillait beaucoup. Je devais faire plus de 80 heures par semaine. Donc, je travaillais en dessin animé et après, je travaillais sur le conte, donc dans une troupe qui s'appelait Laver les couleurs séparément. Et donc, c'était Jean-Pierre Dargaud qui nous accompagnait et nous avons eu la chance de faire rire le public qui venait assister à nos spectacles. Et de ce conte est né, en fait, le conte est né du clown et de la rencontre avec les dessins animés. Donc, ma façon de conter a été inspirée de la tradition et de ces deux disciplines que je trouve qui sont tout à fait complémentaires et qui m'ont beaucoup aidée. Voilà.
Voilà, voilà. Et sur le conte et sur le clown, ben, il y a quand même davantage à dire. Le clown, c'est primordial pour la gestuelle pour... Parce que là, vous êtes loin de la parole. Comment vous arrivez à marier tout cela? Parce que la parole n'est pas là encore, n'est pas encore là.
La parole n'est pas encore là. Et en fait, quand je suis sortie du dessin animé, j'avais besoin d'être en scène et d'avoir un contact direct avec le public, puisque le dessin animé est une pyramide très structurée, où au bout de 4 ans, parfois, on voit le travail qu'on a pu fournir. Donc là, on a le contact direct avec le public. D'être dans une troupe où il y avait 10 personnes, ça permettait d'aborder un peu la scène sans être trop en danger. Et en même temps, ça m'a permis de travailler tout ce monde émotionnel, d'être proche de moi-même, être dans l'authenticité, la véridité, retrouver l'enfant intérieur et forcer les traits des choses. Hein, parce que moi, j'avais un doux-clown, c'était une poule. Donc, qui avait un langage d'humain en poule. Enfin, bon, il était un peu bizarre, ce personnage, mais décalé, quoi. C'était la période des chiens, donc on avait un peu cette poésie décalée des personnages qu'on voyait autour de nous, quoi.
Vous avez trouvé votre clown chez les chiens.
Ça a été une inspiration, mais moi c'était plutôt parce que j'adorais les poules et que je parlais le langage des poules. Moi j'ai toujours été très proche des animaux, donc j'ai, au lieu d'observer des êtres humains comme faisaient mes amis pour s'inspirer du clown, moi je me suis servi des animaux, voilà.
Ben pourquoi pas.
Voilà.
Pourquoi pas des animaux. Mais c'est vrai que c'est bien une poule.
Ah, j'adore les poules, oui.
Vous arrivez à en avoir chez vous?
Non, non, mais quand j'étais enfant, j'avais des poules, c'était mes poupées, je les habillais, on partait ensemble, on était copines, enfin voilà, c'était mon animal domestique.
Donc, vous allez avoir les responsables des animaux sur le dos mais...
Pas du tout, au contraire, j'ai toujours été très bienveillante.
Ça va alors, vous êtes sauvés et ça nous permet de rentrer dans notre troisième phase musicale.
Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit d'aller car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, qui dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors danse, alors
oui, on danse. Hein. Quand on fait ce qui nous plaît, on danse, forcément.
Et donc, le clown, c'est la danse aussi, non?
Le clown, oui, ça peut être, c'est beaucoup le corps qui s'exprime. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler.
Ah, le manque est là.
Le manque est là. Et bien, je suis une famille de tchatcheurs, hein, donc forcément, j'ai besoin de parler.
Et c'est là qu'on va dire allô, papa?
Alors, oui. C'est-à-dire que j'arrête tout le dessin animé, etc., le clown, et mon père me dit « Mais quand tu racontes bien, tu devrais devenir conteuse. » Et j'ai décidé de reprendre la tradition, et grâce à lui, il est allé me chercher. J'ai commencé, alors au début j'avais très peur, forcément, hein. C'était la scène, seul sur scène, avec ce conte, tous ces gens, et puis voilà, ça, il a fallu dépasser ce trac terrible que j'avais.
Alors, racontez-nous le trac.
Ah ben, le trac, j'avais l'impression chaque fois que j'allais mourir. Hein, donc, j'étais obligée de prendre du rescue, qui est une potion magique. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, j'ai fini par l'apprivoiser en me disant, bon ben, ce trac, c'est comme disait Madeleine Renaud, ben, ça nous permet d'être vraiment présent et de sortir tout ce qu'on a de meilleur. Alors, au lieu de le prendre comme un ennemi, prenons-le comme un ami.
Vous l'avez pris pour un ami?
J'ai mis du temps.
Mais quand même,
j'y suis arrivée. Et ça m'a permis, en fait, comme dans la chanson de Stromae, hein, de passer tous ces moments difficiles et de danser, d'avoir du plaisir et de rentrer dans la magie des contes, qui n'est pas un petit mot, c'est vraiment magnifiquement, et de rentrer dans cette dimension. En plus, bon, moi, j'ai des racines occitanes, donc d'être reliée à la terre, de sentir que ben, je suis reliée à mes ancêtres, à mes grands-mères, qui étaient aussi des fileuses de soie, qui étaient aussi des personnes qui étaient là peut-être depuis le paléolithique, puisque je suis allée écouter une émission scientifique où ils expliquaient que depuis le néolithique et bien avant, les premiers hommes ont eu comme animal de compagnie, le premier animal de compagnie a été le chat.
Le chat.
Et en Cévennes, il y a beaucoup de chats. Donc on a gardé la tradition des chats. Et le deuxième, ça a été la chèvre. Et chez nous, on a beaucoup de chèvres. Dont le père d'or, vous connaissez très bien. Et je me suis dit, en fin de compte, peut-être qu'on reste dans cette tradition qui est si ancestrale qu'on n'en connaît plus le bout, quoi, finalement.
Alors, vous nous avez appâté. Donc on va vous demander de vous mettre à l'épreuve avec un conte pour donner le la. Le la pour donner le chat.
Pour donner la langue au chat.
Voilà.
Alors, cela vient des Cigalois. J'ai eu la chance de rencontrer des Cigalois et des Cigaloises et beaucoup de fileuses. Et en ce temps-là, la vie des fileuses n'était pas facile. Elle n'était pas facile puisque parfois, dès l'âge de 8 ans, elles travaillaient plus de 12 heures par jour. Et c'était le cas de Fadette. Fadette était une petite fileuse qui n'avait pas eu de chance puisqu'elle était orpheline. Et peut-être que toutes ces épreuves lui en avaient pris un peu de son cerveau. On l'appelait Fada, Fadette. Fada, c'est quand même ceux qui conversent avec les fées. Et cette Fadette devait descendre plus de 3 kilomètres à pied pour aller à la filature. Et un jour, elle décide de passer par un autre endroit. Elle passe par la Marianne, qui est cette magnifique montagne qui semble être une femme enceinte qui est couchée. Et là, elle entend un drôle de chant. « Atunkien kazonri bon blanc, blanc kounounay au soleil levant, belle fialaire, belle fialaire, que fialaus daumatina au sel dimes perke, viro fuse au viro viro, daumatina au ser viro viro. » Et elle voilà dans une clairière, une étrange cabane. Et cette cabane laisse apparaître la silhouette d'une femme âgée qui semble filer. Fadette s'approche et elle voit derrière la fenêtre les cheveux blancs de cette femme qui sont arrachés et mis sur l'ouvrage. Elle en confectionne ainsi un drôle de manteau, plus léger qu'un souffle, plus doux que de la soie. Fadette pénètre à l'intérieur de la maison et quand la femme tourne sa tête, elle se rend compte que ce n'est pas une vieille femme. C'est une merveilleuse, magnifique, jeune et élégante dame. Fadette est surprise et la femme lui dit « Bonjour Fadette, tu es bienvenue dans ma maison. Je suis une fée et je trouve que ton esprit est prompt à recevoir l'enseignement des fées. Tu vois, je ne vieillis pas. Ce ne sont que mes cheveux qui blanchissent sous le poids des ans. Et ce manteau que je suis en train de confectionner, c'est le manteau d'éternité. Et toi, Fadette, tu me plais. Alors je te l'offre. » Et Fadette ne sait plus que dire. Elle regarde cette dame qui est magnifique. Elle reçoit ce manteau d'éternité. Et quand on l'a retrouvée le lendemain matin, elle était tombée de la falaise. Mais elle n'avait rien de cassé. Et depuis ce jour-là, Fadette erre sur le chemin du carré de soie. Elle semble un peu hagarde, elle semble chercher quelque chose. Et on entend fredonner cette chanson. La, 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 la. Je ne sais pas si Fadette a retrouvé la fée, mais ce que l'on sait, c'est que la fée lui a fait de l'effet. Et si vous y allez là-bas, peut-être que vous la rencontrerez.
On a une belle mise en bouche.
Oui.
Très beau conte.
Très beau conte, oui.
Avec en prime la chanson des fileuses.
C'est une magnifique chanson, oui.
Et vous la chantez dans votre WhatsApp?
Oui, je la chante. Je chante pas mal de chants en occitan, parce que je trouve qu'ils sont tellement gorgés de toute cette tradition, de cet inconscient collectif, de cette poésie des troubadours.
Ça vous plaît?
Ça me plaît beaucoup.
Et vous êtes dans la tradition?
Ce qui me plaît dans la tradition, ce sont les valeurs et les joyaux qu'elle retient. Ce qui me plaît dans la tradition, c'est le lien avec la nature. Et c'est cette intemporalité, cette universalité.
Vous êtes dans la tradition, vous êtes aussi dans la transmission, puisque vous avez fait tout un travail de collectage au Théâtre d'eau, notamment sur ce travail des fileuses.
Oui, au Théâtre d'eau, j'ai travaillé avec Jean-Michel Soloc. On a fait un spectacle que je voulais appeler La Voix des Fées, qui s'est finalement appelé La Voix des Fées. Voix de Fées, c'est quand même un mot un peu violent. Mais ça a été une belle aventure, puisqu'on mélangeait les récits de vie, le légendaire. Il y en a beaucoup interrogé les fileuses dans les maisons de retraite, donc dans le pays Sévenol, aussi du côté de Soubès. Et donc, avec Véronique de Roide, on a fait ce spectacle à deux voix. Puis, elle a déménagé, elle est retournée dans le Nord. Donc, le spectacle n'a été joué que très peu de fois, mais ça a été une belle aventure.
Une aventure de fileuse.
Une aventure de fileuse.
On n'en sort pas?
Non, je suis prise dans les fils des fileuses.
Alors, les fileuses, donc, ben, on n'en sort pas. Et ces fileuses, ben, ça vous ramène à vos grands-mères?
Ça me ramène à mes grands-mères, et il y a une très jolie histoire qui dit ma grand-mère était fileuse à Valrhoc, elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle était très jeune, que les contremaîtres, en fait, dès qu'arrivaient les gens qui voulaient vérifier si tout se passait bien, si la loi était respectée, ils cachaient les petites filles, parce que ce n'était pas les petits garçons, hein, c'était les petites filles sous les tables pour pas qu'on les voie. Et il paraît qu'il y a eu la meilleure ouvrière de France qui se trouvait à Valrhoc. Et on est allé la chercher, cette personne. Elle a traversé les océans pour former la Chine. Et après, on connaît la suite.
Et elle a formé la Chine.
Elle a formé les ouvrières chinoises.
Donc, le fil de Chine, ça vient de Valrhoc.
Alors, pour les techniques modernes, parce qu'en fait, c'est la grande impératrice de Chine de l'Antiquité qui, en prenant son thé bouillant sous un mûrier, a vu tomber un cocon et en voulant le sortir, elle l'a dévidé et c'est ainsi que le premier fil de soie est né.
Voilà, nous savons tout du fil de soie.
Voilà.
C'était l'histoire du fil de soie par Hélène Gers.
Down to the shadows, the sun and the shadows sing. The tide raping on the shelter comes in the springtime of the year. The songs of the birds seem to fill the world, and where the fever plays, all the voices conquer long past their woodland days.
Je pense que c'est l'Irlande. L'Écosse ou l'Irlande, je pense que c'est bien l'Irlande, oui.
Donc c'est une chanteuse irlandaise,
oui.
Rousse,
oui.
Qui plairait bien à des amis et à moi.
Oui, mon père est allé plusieurs fois en Irlande et il aimait beaucoup ce type de personne. Mais c'est vrai que c'est un petit côté fait de la nature, le côté celtique, cette relation. En fait, moi, j'ai hérité de mon père aussi de cet amour de la nature. Hein, donc, c'est un peu l'incarnation féminine de toute une perception d'un pays, quoi, finalement. Et c'est vrai que c'est une belle image.
Alors, c'est une image en décalage avec des choses qui vous sont arrivées, parce que là, on est dans la douceur, on est dans la compréhension, on est dans le respect.
Oui.
Et vous avez un peu subi le monde du conte un peu à l'envers.
Mais disons que quand je suis arrivée dans le monde du conte, j'étais jeune, j'étais une jeune femme, et j'étais la fille de Jean Gaz, donc mon père qui a cette façon si singulière de conter, c'est un grand conteur. Et c'est lui qui m'a le plus appris, même si j'ai fait plusieurs formations par ailleurs. Et donc, j'ai créé beaucoup de jalousie autour de moi. Donc, il y a eu ça. Et il y a aussi le fait que je sois une femme dans les années 90, c'était pas toujours un avantage à certains niveaux. Puisque si on évinçait gentiment certains messieurs, eh bien, ils nous renvoyaient en nous mettant sur des blacklists. Donc, j'ai beaucoup souffert, oui, de cette ambiance très machiste qu'il y avait dans le conte.
Voilà, c'est dit.
C'est dit.
C'est dit, bon, et ça reste gravé dans cette émission, qui est l'Occitanitude d'Hélène Guerre. Alors, Hélène, on va revenir un peu aussi à l'actualité, dans le sens où vous êtes allé faire un travail de fond, de collectage, de transmission au Maroc.
Oui, je suis allée au Maroc, c'était au moment du printemps arabe, au moment où en fait tout était en train de remuer, on en espérait dans le bon sens et ça n'a pas toujours été le cas. Et là où je suis allée, en fait, c'était dans une tribu tamazight parce qu'il y avait une belle tradition orale, uniquement orale. Donc ma grand-mère était de tradition orale, au début elle ne savait pas écrire. Hein. Et donc j'ai beaucoup de respect pour la tradition orale, pour moi ce n'est pas une sous-culture mais au contraire une très belle culture. Et malheureusement, j'ai pu constater que les contes qui étaient transmis avaient été manipulés dans le sens, en fait, d'un endoctrinement, voilà, à ce moment-là.
Alors, expliquez-nous quand même, parce que là, c'est la première fois que j'entends ça, j'entends cela, et ça me paraît quand même dramatique, on est complètement dans l'air du temps.
C'était l'air du temps, mais ça a toujours été, hein. Dans les périodes de troubles, les contes et les mythes ont toujours été manipulés, puisque c'est très puissant, ça va dans l'inconscient collectif, dans les valeurs universelles. Donc c'est la première chose qu'ils vont manipuler, surtout dans la tradition orale, puisque c'est le moyen de communication. Et donc là, on a assisté en direct à une revisitation plus ou moins douteuse des contes traditionnels, qui mettaient toujours à défaut les femmes, qui devaient écouter leur frère, leur père, sinon on les coupait en petits morceaux et on les donnait aux animaux. Donc voilà, ça a été une prise de conscience que j'ai enseignée, parce que je faisais la formation sur le conte par ailleurs, et là j'étais en direct sur un cas d'école. Hein.
Donc vous parlez de formation, la formation aussi elle passe par Aubaret. Par le travail que vous avez fait avec Marc Aubaret.
Alors moi, maintenant, je suis formatrice en compte beaucoup sur l'oralité, mais à mes tout débuts...
C'était le CM.
C'était le CMLO. Donc j'étais formée au début au CMLO, j'étais formée au théâtre Lila avec Philippe Autier. Et là, de temps en temps, je vais au CMLO pour faire des conférences. Là, c'était sur le conte et le genre, en fait, dans les contes de fées, parce qu'il y avait matière à débat. Donc voilà, j'ai appris, c'était au tout début du CMLO, donc c'était merveilleux, c'était expérimental, et j'ai pu rencontrer des conteurs, de beaux conteurs.
Beaux conteurs au CMLO, avec Aubaret,
avec Marc Aubaret, voilà, j'ai rencontré des gens comme Mimi Barthélémy, j'ai rencontré Alain Le Goff, j'ai rencontré... Yannick Jolin. Après, je les ai rencontrés sur des festivals aussi au début de ma carrière quand j'étais pas encore blacklistée.
Mais là, je vous donnais des noms de vedettes. En fait, c'est peut-être du conte en fait que vous nous donnez là.
Ben, j'étais en ce temps-là jeune, mais eux, ils étaient dans un âge moyen, donc j'ai eu la grande chance de pouvoir les rencontrer. Oui.
C'est intéressant.
Ah oui, c'est passionnant.
C'est intéressant, c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant.
C'est passionnant. Thank you.
break free. I want to break free. I want to break free from your lies, your soul, and self-satisfied out of me. I've got to break free.
On est dans la danse, Freddie Mercury, The Queen. Et donc, c'était vraiment un précurseur, un génie. Hein, c'est un grand génie qui, à l'époque, avait beaucoup de mal à faire valoir le fait qu'il était homosexuel, qu'il était tendance trans. Et en même temps, je veux être libre. C'est la plus belle chose qu'on puisse espérer. Donc, c'est un espoir incroyable parce qu'il est parti de loin et il est arrivé très, très haut. Donc, c'est une belle histoire.
Belle histoire de Mercury.
De Freddie Mercury, oui.
Freddie Mercury. Je ne me suis pas trompé, je voulais dire une connerie, mais je ne l'ai pas dite. Tout va bien. Donc, ben, écoutez, Hélène, là, on est en plein dans la réversion, l'anti-réalité. Donc, est-ce qu'il y a des conteurs transsexuels?
Alors, par ma connaissance, moi, je n'en connais pas. Mais c'est quand même tout un débat par rapport au genre dans les contes de fées, alors que les contes de fées sont souvent, même si c'est pas des contes de fées, des contes en général, les mythes sont souvent là pour donner le miroir de notre intériorité. Ils nous parlent de notre psyché, ils nous parlent de notre monde intérieur qui est au-delà du temps et de l'espace, et de le remettre dans un contexte concret, horizontal, ça va peut-être amener des erreurs d'interprétation. Donc c'est dommage de tout mélanger pour perdre les trésors de cet enseignement de sagesse que sont les contes. Mais en même temps, quand ils sont contextualisés dans une époque qui est patriarcale, effectivement, il y a des choses qui tombent par rond, quoi.
Alors, justement, le conte, c'est un truc du passé ou c'est un truc... du présent.
Pour moi, le conte, c'est quelque chose d'universel et qui doit à chaque fois se déshabiller, se rhabiller pour s'assortir à son époque, à son temps et rester avec cette fraîcheur et ces images qui sont porteuses de tant de sagesse, tout en délicatesse. Voilà, ce sont des enseignements que les tout petits peuvent comprendre jusqu'aux plus anciens et chacun y prend ce qu'il a à apprendre.
Il faut donc s'adapter.
S'adapter, voilà. Sans tout casser, c'est ça le plus difficile.
C'est ça le plus difficile au jour d'aujourd'hui, parce qu'on casse beaucoup trop.
On casse beaucoup de choses, et puis il y a ce manque d'humilité, parce que c'est quand même pas évident de travailler cette matière qui est un peu magique, et de se dire, alors je vais enlever ci et ça, c'est un peu dommage, puisqu'on désosse complètement la substance de ces contes. C'est un peu comme des choses qu'on comprend pas, de se dire que peut-être qu'il y a des choses à apprendre avant de les retravailler, quoi.
Alors, parmi les conteurs, les conteuses que vous avez connus, vous avez cité un certain nombre, quel est celui qui vous aura marqué le plus, au-delà du pape des conteurs qui est votre père?
Bien sûr. alors, celui qui m'a le plus marqué, moi j'aimais beaucoup Alain Le Goff. Je trouvais qu'il avait cette magie de nous emporter dans un autre monde. J'aimais beaucoup Mimi Barthélémy dans sa chaleur humaine et dans quelque chose de formidable. Tous ces gens-là étaient dans la tradition du conte où ils travaillaient sur les images, la matière. Et maintenant, c'est vrai que dans les festivals, avec le renouveau du conte, on est plus sur un travail littéraire. de récitant, et moi, j'y trouvais pas mon compte, dans le sens où les images, moi, je suis une cinéaste de l'imaginaire, ne viennent pas à moi naturellement. Il va falloir que je fasse l'effort de retravailler comme si c'était sur un livre, et on perd cette spécificité de la tradition orale du conte, qui est une richesse incroyable, quand même.
Vous êtes en train de me dire qu'on a intellectualisé le conte comme on intellectualise tout aujourd'hui, et qu'on a perdu la tradition orale, ou on est en train de perdre la tradition orale?
Ben disons que là, j'ai rencontré un historien en faisant mes conférences qui m'a dit que j'étais la dernière de ma lignée de conteurs traditionnels oraux. Ça m'a donné un frisson et je me suis dit, il est temps et urgent de remettre le conte dans un contexte, parce que le conte, c'est la vie, c'est la parole vivante, et on manque vraiment d'authenticité, de spontanéité dans les temps qui courent, puisque tout est écrit, tout est prémâché, tout est enregistré, tout est appris par cœur. Et le conte a cette saveur parce qu'il nous ramène à la vie.
Alors, est-ce que c'est lié à la société, à la façon d'être des gens, à tous ces réseaux divers et variés, sociaux et autres, qui fait que tout le monde parle, mais pour ne rien dire?
En fait, notre monde intérieur, c'est un continent qui a été colonisé par les réseaux sociaux. Avant, c'était colonisé par le conte, mais le conte, c'est un animal de la nature, donc il va polliniser, on va dire. Et moi, je suis tout à fait là pour défendre cette tradition orale, parce que c'est la tradition de la vie. Et là, je vois sur votre belle carte de map mondiale que justement, en Australie, les aborigènes avaient des traditions orales qui ont plus de 10 000 ans et qui ont permis aux scientifiques de retrouver les grands séismes qui ont traversé ce pays, beaucoup plus précisément que par la lecture de la géologie.
Hélène, c'est votre occitanitude, on l'a bien prouvé. Qu'est-ce que vous pensez de l'occitan aujourd'hui?
Alors l'occitan, pour moi, il est important quand il reste vivant aussi, et c'est important qu'il reste vivant parce que c'est un langage de la nature, un langage très imagé qui est tout en fait en lien avec les contes et qui permet de garder et de goûter, on a parlé de goût, le goût des contes, de goûter cette savoureuse langue avec ce lien qu'elle a avec la nature.
Est-ce que vous pensez qu'on fait une assez grande place à des radios comme Radio Languedoc par exemple?
Ben, ça serait intéressant que ça se développe encore, puisque c'est que par ce biais-là qu'on peut sensibiliser les gens à ce trésor.
Voilà, mais c'est presque une conclusion, mais je n'en veux pas encore dans votre conclusion. Donc on va se rattraper, on va se rattraper. Vous pensez que le conte entre autres, c'est un vecteur donc de paroles, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour développer tout cela?
En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de moins. C'est-à-dire qu'à force de mettre des accessoires, des décors, des ceci, des cela, comme si la parole ne se suffisait pas à elle-même. Les petits-enfants, quand ils écoutent des conteurs qui sont pleins d'images, ils sont tout à fait attentifs, ils ont besoin de présence, ils se nourrissent de présence, de la voix, de ces instants de silence. C'est pas la peine d'aller rajouter des accessoires, c'est cette présence humaine qui nous réchauffe après tout. Et le conteur et les contes vont nous rappeler tout ça. Donc c'est d'une préciosité incroyable. Soyons sobres, la sobriété heureuse. C'est plutôt enlever les couches plutôt que d'en rajouter, quoi.
En fait, vous êtes contre les effets spéciaux.
Les effets spéciaux pour enlever, pour déformer la réalité, oui.
Voilà. Donc, ça vous a appris, votre passage dans la bande dessinée, dans le dessin animé, vous a appris peut-être aussi qu'il faut point trop en faux, quoi.
Oui, le dépouillement. Et puis moi, mais depuis que je compte la nature. Et là, avec le chant des arbres, c'est mon dernier spectacle, je reviens à des choses qui sont proches de ce monde invisible et qui m'amènent moi-même, en me plongeant dedans, à découvrir tout à fait des choses incroyables. Et je crois que si je comptais encore 50 ans, ce ne sera pas le cas, hein, mais j'aurai encore des choses merveilleuses à y découvrir.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Si le monde est encore de ce monde, et que j'y suis encore dessus.
Si le monde est encore de ce monde, vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la solution, de la situation plutôt aujourd'hui de ce monde?
Alors moi, ce que je pense, c'est que on parle beaucoup de tous les drames qu'il y a et de ce monde obscur, mais comme dans toutes les périodes de sombre, bien il y a toujours une part de lumière. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre la loupe sur la merveille, sur l'émerveillement du cœur, de la nature, des gens, des rencontres. Et quand j'allais faire de la collecte auprès des personnes âgées, je mettais justement la lumière là-dessus et ils m'ont donné beaucoup, ces gens-là, parce que ça, on a envie de le partager.
Vous pensez que ça peut marcher encore ?
Oui, oui, si on y croit, ça peut marcher.
Si on y croit.
Oui, mais la lumière, même un peu profonde de la nuit, eh bien, elle est là, à travers une étoile, à travers une luciole, et après, le jour revient.
C'est la chandelle, quoi.
C'est la chandelle.
C'est la chandelle de Gaston Bachelard.
Voilà, exactement. De tous les philosophes heureux, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui a écrit La puissance de la joie, c'est Frédéric Lenoir. Et ce livre, je trouve que c'est magnifique. Il a fait une belle... C'est un philosophe, donc il a repris tous les grands philosophes et il fait un hommage à la joie et ça, ça fait bien. Ça fait du bien au cœur.
Dans votre vie, comment vous trouvez votre compte ? C'est le cas de le dire.
Dans ma vie, comment je trouve le compte ? Ben, ce sont les comptes qui me donnent le compte, hein, puisque grâce à eux, je vais découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas découvertes toute seule. Ça me permet d'avoir des rencontres, ça me permet de me rencontrer moi-même et ça me permet de rencontrer d'autres cultures. Donc, c'est d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qui se présente à moi ? Et de tirer le fil de soi pour aller jusqu'au bout et repêcher des merveilles.
Alors, on va terminer là. En vous remerciant beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.
En faisant un petit coucou à Jean Gers.
Coucou, et j'espère qu'il pourra écouter cette émission. Et en tout cas, je le rends hommage et le remercie beaucoup de tout ce qu'il m'a transmis. Voilà.
On l'embrasse.
On l'embrasse bien fort.
Outita, outita, outita. Attitude, attitude, attitude. Outita, attitude.
Émission de Jean Gers.